et médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. L'histoire des civilisations, une fugue initiatrice, les paillettes d'un célèbre festival et les raisons de nos surmenages extrêmes. Voici le sommaire de cette édition. Et comme chaque mois, nous sommes dans le grand studio 621 de la Maison de la Radio à France Inter pour une émission danse et musicale aussi. Bonjour Arthur H.
Bonjour.
Nous parlerons de votre récit fugue paru chez Mercure de France tout à l'heure, l'histoire de votre fugue en Guadeloupe, celle de votre mère en Corse et celle de Bach, évidemment musicale. Ayant fugué à l'adolescence, pensez-vous qu'on puisse fuguer aussi à l'âge adulte, vous ?
Ah bien sûr, et même très vieux, on peut s'enfuir de l'EHPAD.
Oui. Vous avez l'intention de fuguer un jour à nouveau ou pas ?
Ah ben moi je suis en fugue perpétuelle intérieure, pour moi ce qui est dur c'est de ne pas fuguer.
Bien, vous jouerez un titre acoustique tout à l'heure, une séquence filmée qui sera diffusée dans la version télé de la librairie francophone sur RTS2, RTBF La 3, ici RTV et sur TV5 Monde. Amin Maalouf de l'Académie française, grand écrivain franco-libanais, est sur notre plateau pour son dernier livre, un essai sur le naufrage des civilisations. Bonjour Amin Maalouf.
Bonjour.
Merci d'être une nouvelle fois avec nous après votre participation à la librairie francophone. Télé, vous rencontrerez tout à l'heure Arthur H, auquel on fera une petite surprise ensemble. On verra ça ensemble. Il sera aussi question du Festival de Cannes qui a ouvert ses portes cette semaine avec le livre parfois sulfureux de Gérard Lefort. Et nous parlerons du burn-out en fin d'émission avec une petite BD très instructive.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous, comme d'habitude. Pour représenter la France aujourd'hui, c'est Anne-Rosine Vosa, depuis la Martinique, qui est avec nous. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Fort-de-France, dans la librairie Le Papillon Bleu. Tout va bien pour vous, Anne ?
Tout va bien, ça se passe bien,
parfait.
Je suis contente, c'est génial.
En Belgique, c'est Déborah Damblon de la librairie La Licorne à Bruxelles qui est avec nous. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Au Canada, Jérémy Laniel se tient prêt. Vous êtes libraire à Rosemère, dans la librairie Carcajou, avec votre caractère difficile parfois. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Vous serez gentil aujourd'hui ?
Je suis toujours gentil,
non,
je suis un lecteur difficile, c'est tout.
Il dit ça chaque fois la même chose. En Suisse, c'est l'imprévisible Dominique Bressou qui est avec nous. Tout peut arriver avec elle aussi. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. Et bonjour Gérard Lefort.
Bonjour.
Bienvenue dans la librairie francophone. Vous avez été journaliste, agitateur de la presse écrite et de la radio française pendant presque 40 ans. Farouche et pertinent critique de cinéma aussi, nous le verrons avec votre livre sur le Festival de Cannes. On commence toujours cette émission par une anecdote personnelle. Quelle histoire avez-vous choisi de nous raconter, Gérard ?
Une histoire qui est arrivée en 1983, en mai 1983, où on décide avec mon journal Libération de faire une interview de réalisateur américain, quoique très anglo-saxonophile, James Ivory.
Oui.
Et nous allons donc au rendez-vous avec une collègue, une chère collègue, Louella Intérim. Sur le chemin de l'interview, je vérifie auprès de Louella. Je dis, mais tu parles anglais ? Elle me dit, moi, pas du tout. Et elle me dit, et toi ? Je dis, a little bit. Bon, donc on arrive et on pense jeter l'éponge en s'excusant auprès de James Ivory qui parlait pas un mot de français. Et là, ma grande surprise, ma collègue Louella Intérim lui pose la première question. First question, I am ravi to meet you and I want to know why. Et donc là, je dis, bon, bah, c'est fini, c'est terminé. Et James Ivory se lance avec grande élégance dans une réponse, un soliloque qui a duré plus d'une heure. Donc j'ai noté, j'ai noté que India voulait sûrement dire Inde. Mais quand il disait Julie Christie's Gorgeous, il ne voulait pas dire qu'il voulait égorger l'éternel interprète du docteur Jivago. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à la fin, donc après j'ai dit, bon, bah, c'est fini, c'est plié. Et en repartant, on arrive au bureau et toujours Louel Intérim me dit, abandonnez-nous jamais, tu vas voir, on va tout inventer, on est des vrais professionnels. Ah. Et on l'a fait. Et elle a été publiée dans le journal Libération, une interview où, évidemment, les questions n'avaient jamais existé. Et surtout,
les réponses non plus. Mais c'est horrible.
Et au mois de janvier, non, c'est formidable. Des vrais professionnels. Et au mois de janvier, j'ai rencontré James Ivory à Lyon. Oui. Et je lui demandais s'il s'en souvenait. Il s'en souvenait très bien. Et oui. Il en rit encore.
Incroyable. Ça m'est arrivé avec Muse, le groupe Muse. Moi, avec un interprète qui savait pas du tout parler anglais.
Voilà.
C'était horrible, mais c'était pour la radio. Merci beaucoup. Gérard Lefort est dans la librairie francophone cette semaine. Et Arthur Ashe aussi, avec ce livre poétique qui se fait parfois récit de voyage. Fugue est paru chez Mercure de France. Tout commence avec un dialogue imaginaire avec Jean-Sébastien Bach. Arthur, compositeur de l'art de la fugue, Bach qui vit des drames familiaux toute sa vie et qui est un grand marcheur. Il va prendre sa vie en main, quitte à devoir marcher des centaines de kilomètres pour parfaire son éducation.
Oui, j'ai trouvé ça très beau que, enfin, dans le cadre d'exploration d'une fugue, que lui aussi soit parti un peu à l'aventure. Enfin, il savait où il allait. C'était pas une fugue, mais c'était quand même un voyage à pied assez éprouvant, une aventure, et où il allait vers l'inconnu. Donc, il y avait une résonance avec la fugue de ma mère. C'est pour ça qu'au début, je voulais appeler le livre Bach, ma mère et moi. Mais c'était pas très sérieux dans Mercure de France.
Vous entamez en tout cas cette confidence auprès de Bach, qui parle aussi bien anglais et français d'ailleurs que vous allemand dans votre songe, voilà, dans votre rêverie. Vous lui confiez l'histoire de la fugue de votre mère, Nicole Courtois, à l'âge de 17 ans. Avec sa petite bande, il s'imagine partir pour Tahiti, au départ de la Corse, où il pourrait, selon eux, y construire une embarcation et partir tous ensemble.
Ben oui, parce que je trouvais que ce gamin un peu anarchiste, fils et filles d'ouvriers à Argenteuil dans les années 50, voilà, qui sont tétanisés par l'ennui, par le mépris de la société dans laquelle ils vivent, ils ont l'impression que leur destin est forcément noir, qu'il n'y a aucune issue, quoi. La société est rétrograde, elle est enfermée, tout ça, donc... Ils discutent entre eux, puis à un moment, ils veulent juste s'enfuir, quoi. C'est le seul moyen pour que la vie soit pas juste un ratage, quoi. Qu'il y ait quand même de la lumière quelque part. Et dans leur très touchante naïveté, ils décident de s'enfuir à Tahiti, quoi. Faire Argenteuil-Tahiti, ce qui est quand même difficile, quoi. Ouais, ouais. Et j'ai trouvé cette histoire tellement belle quand ma mère me l'a racontée, quoi. De dire, mais vous croyez vraiment pouvoir aller à Tahiti en radeau, en plus, en putain de radeau, quoi. Je dis oui, on y croyait, mais en fait, en même temps, c'était un prétexte pour avoir le courage de partir. Ouais. Et effectivement, ils sont partis en Corse dans l'idée de se cacher dans une crique pour pouvoir construire un radeau tranquillement, mais cette idée très loufoque a été abandonnée. Et puis finalement, ils ont vécu à la sauvage en Corse.
Et c'est compliqué pour eux en Corse, d'ailleurs.
Bah oui, puisqu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient absolument rien.
Nicole subit les assauts des hommes. Vous expliquez qu'il y a une réelle misère sexuelle dans ce village, dans le village où ils atterrissent, et qu'à un moment, il faut se résigner à partir et faire le chemin inverse.
Bah oui, je raconte ça dans le livre, comment elle subit la pression... de tous les mâles du village qui sont effectivement qui voient arriver une jeune fille de 18 ans. On leur donne une maison abandonnée où ils dorment ensemble. Et pour les Corses, pour les femmes, c'est fatalement une traînée, une prostituée, une fille aux mœurs très très légères. Donc au début, ils la méprisent. Et puis aussi, tous les mecs veulent se la taper absolument parce qu'ils pensent que voilà, ça allait changer un peu du quotidien.
Anne-Rosine Vosa est en Martinique, c'est notre libraire française aujourd'hui. Vous avez lu le livre d'Arthur Ashe. Anne, qu'en avez-vous pensé ?
Alors, je l'ai lu avec un grand plaisir, car j'ai trouvé génial de convoquer l'esprit de Bach pour filer la métaphore de la fugue. Alors, d'un côté, le maître de la fugue et de l'harmonie céleste, et de l'autre, l'art familial de la fugue comme un rituel initiatique quasi cosmique. Et j'ai également apprécié la tendresse de l'auteur à l'évocation de sa mère, et puis le respect vis-à-vis de son père. Et jamais dans son livre, on ne tombe dans le déballage, tout est dans l'art de la discrétion.
C'est vrai. Voilà.
Merci.
C'est vrai que c'est un livre pudique. Et cette fugue, Arthur Ashe, elle est par définition éphémère. La vôtre aussi a été de courte durée. Vous, ça se passe à un retour de vacances avec votre papa, Jacques Higelin, qui vous emmène en Guadeloupe. Au moment du départ, à l'aéroport, vous vous éclipsez pour rester et retourner à Dehaye, une ville de Guadeloupe, où vous laissez un mot à votre père à ce moment-là, que votre petit frère doit lui remettre, après avoir passé la douane surtout, vous aviez prévu le truc quand même. Jacques est désemparé et montre votre mot à Coluche, qui l'accompagne, et Coluche lui dit « c'est normal de fuir à cet âge-là, tout le monde fait ça ».
Oui, il lui dit « tu vas pas t'inquiéter, c'est normal, j'avais quand même juste 15 ans
oui. ».
Il me dit « laisse-le tranquille, on va bien le retrouver un jour ». Et du coup, moi, dans ma naïveté, je pensais qu'une fois qu'on avait passé les douanes, c'était une espèce de truc sacré. En fait, en vrai, il aurait pu tout à fait ressortir, mais il l'a pas fait. Et du coup, bon, ce qui était très bien pour moi, parce que j'ai pu vivre mon aventure, me cacher, tout ça. Mais après, effectivement, quand il est rentré et qu'il a expliqué à ma mère, moi, je devais retourner au lycée, j'avais 15 ans, j'étais pas très doué à l'époque pour quoi que ce soit. Et quand il a dit, elle a appelé Arthur, il est pas là, il est resté là-bas. Ouais. Mais pour, pourquoi il est où? Ah, je sais pas où il est. Tu sais pas où il est? Non, je sais pas. Voilà, c'était... Pour ma mère, c'était plus difficile que pour mon père à accepter. Ouais,
normal. Mais avant, Arthur, vous donnez l'air de rien l'alerte à votre père. Lors d'une virée, après une soirée arrosée en champignons hallucinogènes, ça, dans la maison de Coluche, c'est n'importe quoi, hein, ce passage-là. On vous fait manger une omelette avec des champignons hallucinogènes.
Oui, c'était un peu inconscient de leur part, ouais, c'est sûr. Mais encore une fois, c'était une vraie expérience initiatique que j'ai pas vécu grand-chose avec mon père dans ma vie. Mais ça, c'était quelque chose de fort, en tout cas. À 15 ans, on a fait ça ensemble. Et
vous partez avec lui dans la forêt, hein, comme ça, dans la nature. On va écouter un extrait de votre livre qui évoque ce passage, justement. Et c'est Amine Maalouf qui a accepté de vous lire, Arthur H. Ah, c'est notre petite surprise. On va envoyer la musique, Amine, et je vous fais un signe.
On s'est enfoncé dans l'obscurité et les lumières de la villa ont disparu. Jacques ouvrait le chemin, je marchais juste derrière lui, mettant mes pas dans les siens, quand une idée m'est apparue avec force. Dans ma cervelle ouverte, tout était terriblement symbolique. J'ai demandé à mon père de s'arrêter, il s'est retourné face à moi. Je lui ai dit des mots simples. Je ne pourrai jamais trouver ma voie si je reste derrière toi, si je marche dans tes pas. Il faut que je suive ma propre route. Laisse-moi partir. Il y eut un long silence. Il me regardait sans savoir quoi dire. Tout devait être symbolique pour lui aussi. Ok, d'accord, fais gaffe à toi. Puis il m'a laissé et il est reparti, sans se retourner, vers les bruits et les lumières de la fête. Je suis resté tout seul dans l'ombre et j'ai décidé d'explorer ce nouveau territoire qui n'appartenait plus qu'à moi.
Merci beaucoup, Arthur, ça me touche beaucoup d'entendre la voix d'Amine. Quand ça s'est passé, on avait pris des champignons hallucinogènes très très forts, très très puissants, donc on était vraiment dans un autre monde, quoi. C'était pas un truc, j'aurais jamais pu lui dire ça dans un état normal, mais par contre, voilà, avec toutes les perceptions qui explosaient littéralement, la jungle qui semblait vivante, c'est ce moment où on s'est regardé était complètement surnaturel grâce à ces substances.
Rester en Guadeloupe et devenir matelot sur un bateau, ça a vraiment changé votre regard sur la vie et sur vous-même, Arthur ?
Oh bah oui, parce que voilà, déjà ça c'était un acte qui était quand même symboliquement puissant pour moi. Puis après, deux jours après de s'enfuir, et voilà, je voulais raconter cette histoire et l'histoire de ma mère parce que c'était deux jolies histoires de... un moment de décider très clairement de sa propre liberté, voilà, choisir sa liberté de manière quand même assez radicale, vraiment c'est ça.
Bien. Jérémy Laniel, notre libraire canadien, veut intervenir pour donner son point de vue. C'est à vous, Jérémy.
À plusieurs reprises, moi, de mon côté, mes amis m'ont dit que je devais fréquenter Arthur H. et je ne les ai pas écoutés, comme ça m'arrive parfois. Mais au sortir de Fugue, j'ai l'impression de l'avoir connu toutes ces années. Vraiment, là, voilà la force d'un récit intime porté par une voix honnête, sensible et surtout qui ne vise pas l'effet de style à tout prix. Ça se lit comme une soirée à siroter une bouteille de rouge ou peut-être deux.
Oula. Oula. Ou prendre des champignons hallucinogènes. Oui.
Non, faut pas encourager à ça. Et vous y faites des rencontres, Arthur H, en Guadeloupe, un ami musicien dans un groupe de guoka, les racines de la musique antillaise. On en parlait justement avec Cassave la semaine dernière même. Une jeune femme de 30 ans aussi, vous en avez 15, hein, je rappelle, avec qui vous
couchez,
vous nous initiez. Et votre père, Jacques, ne prend pas de vos nouvelles. Vous l'expliquez ça, ni pendant, ni après.
Ouais.
Et vous n'en avez jamais parlé ?
Non. Bah, c'était comme ça à l'époque, quoi, je sais pas. On portait ses secrets dans sa tombe, on peut pas lui demander.
En même temps, il a respecté jusqu'au bout votre souhait. Souhait d'émancipation.
Tout à fait, très bien respecté, oui. Ouais. Ouais.
Il est allé au bout de votre démarche quand vous dites « je veux
faire
tout seul, sans marcher dans tes pas ».
Je pense que ça aurait été un peu normal de soutenir un peu ma mère après, peut-être... Ouais. C'est un appel, disons, peut-être.
Vous êtes retourné à Déhé ?
Jamais. Vraiment un fantasme, parce que j'ai peur d'y retourner, parce que j'ai peur que ça... Je pense que ça a pas mal changé, c'était quand même... début 80, le monde a énormément changé, il y avait quelque chose de très pur là-bas, c'était très très simple. Maintenant, c'est, apparemment, c'est assez touristique, ça doit être très beau encore, mais c'est vrai qu'il y a des endroits qu'on préfère garder fantasmatiques, quoi. C'est mieux de les imaginer que de les voir en vrai.
Merci beaucoup Arthur H.
Beaucoup.
Je voudrais dédier ce moment de radio quand même que nous vivons ensemble à votre père Jacques Higelin et à votre oncle Paul, le frère de Jacques qui était mon ami et qui m'avait d'ailleurs raconté il y a longtemps quelques petites histoires qui sont dans le livre, que j'ai retrouvées dans le livre. Vous en avez fait en tout cas de cette histoire familiale une longue poésie quasi musicale, très pudique comme le libraire le disait et très intense à la fois. Félicitations Arthur. Fugue est paru chez Mercure de France. Je vais vous laisser vous installer pour interpréter une chanson dans notre studio. Studio Arthur, les caméras se mettent en place pour filmer cette séquence qui sera diffusée dans la librairie francophone version télé. Vous le savez, le lien entre la radio et la télé. Arthur H qui interprète un extrait de son nouvel album. Voici Assassine de la nuit, Arthur H.
Tu me répares, tu m'opères à cœur ouvert. Je te déporte, je te détache, tu me grand large, tu me dérives. Assassine de la nuit, assassine de la nuit. Je t'espionne, tu me soupçonnes, je t'alarme, tu me cambriole. Je te vise, tu me cibles, je me rends, tu me descends. Assassine de la nuit, assassine de la nuit, assassine de la nuit, oh, 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 oh. Assassine de la nuit. Je te hausse, tu me noies, je te coule et tu me bois. Je te sphinx, tu me féline, je te démon, tu me divines. Oh, tu m'as encore, tu me tues. Assassine de la nuit, assassine de la nuit, assassine de la nuit. Assassin de la nuit, oh, 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 assassin de la nuit. Tu me déchires, tu me répares, tu m'opères à cœur ouvert. Je te déporte, je te détache, tu m'as grand large, tu me dérives. Oh, tu m'as encore, tu m'as tué, assassine de la nuit.
Arthur H. dans notre studio avec Assassine de la nuit dans une version acoustique entièrement au piano. Merci beaucoup Arthur, venez nous rejoindre. Magnifique interprétation. Vous retrouverez ce moment filmé dans la librairie francophone télé début juin sur la RTS, RTS2, RTBF La 3, ICI RTV et sur TV5 Monde. Bravo Arthur, c'est sublime.
Merci beaucoup.
Bravo à vous.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
Et Arthur H., je vous présente Amin Maalouf, grand écrivain franco-libanais, membre de l'Académie française. Votre nouveau livre, Le naufrage des civilisations, est paru chez Grasset. Il raconte toute l'histoire des mouvements du monde et de ses civilisations. L'humanité a basculé à plusieurs reprises et elle bascule encore, car selon vous, nous ne sommes pas arrivés, nous n'arriverons pas à vivre ensemble avec nos différences. C'est impossible, ça? Il y a un espoir quand même ou pas?
Je crois que nous n'avons pas le choix. La question n'est pas de savoir si nous pourrons vivre ensemble. La question, c'est de savoir comment nous allons organiser notre vie commune. Ce livre commence dans ma région natale, c'est-à-dire principalement le Liban, où j'ai connu, pendant mon enfance, une expérience de vie commune entre des gens qui avaient des origines différentes, des croyances différentes, et ça fonctionnait relativement bien.
Bah oui.
Et puis les choses se sont un peu détériorées, et elles se sont aussi un peu détériorées à travers la planète, avec la montée des affirmations identitaires un peu partout dans le monde. Et ce livre part de mon histoire intime, de mon enfance, et puis peu à peu, à mesure que je prends de l'âge, je commence à voir le monde dans son ensemble. Et...
Oui, parce que vous avez vécu en Égypte et aussi au Liban. Et en Égypte, avec vos parents, votre grand-père qui avait des intérêts là-bas, dans la vallée du Nil, vous expliquez qu'il y avait un foisonnement culturel. À cette époque, l'Égypte rayonnait par sa culture et par son progressisme.
Il y a eu un moment dans l'histoire de l'Égypte que je n'ai pas connu directement, je l'ai connu à travers ma mère essentiellement, parce que la famille de ma mère était en Égypte. Quand j'étais très petit, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 3 ans, j'allais avec elle en Égypte, mais je n'ai pas de souvenir évidemment de cette période. Après, j'ai constamment entendu parler de ce grand moment en Égypte. C'est vrai que l'Égypte, il y avait un foisonnement intellectuel, culturel, musical également. Rappelez-vous, il y a tellement de chanteurs en France.
Claude François, par exemple.
Claude François, Dalida, Moustaki, Béar, il y a plein de gens qui sont venus d'Égypte. Et c'était vrai également dans d'autres langues. Un des plus grands poètes grecs modernes, Constantin Cavafy, vivait en Égypte. Il est né à Alexandrie, mort à Alexandrie. Il a travaillé dans un ministère là-bas. Et c'est vrai qu'il y avait un moment privilégié. Mais bien entendu, il y avait aussi des problèmes entre les communautés là-bas qui, à la fin, a
explosé.
A explosé à partir des années 50.
Avec Nasser. Alors, il y a la figure de Nasser. Nasser qui s'impose face aux frères musulmans et qui deviendra président de la République et chef de la révolution. Il résiste aux islamistes. Et vous racontez dans votre livre que depuis les années 20, il y a un conflit entre le Caire et l'organisation islamiste, mais il enterre l'Égypte cosmopolite au moment où il arrive au pouvoir, Nasser. Il chasse les Britanniques, il chasse les Français. Et vous comparez Nasser et Mandela, d'ailleurs. Vous dites, il y a une comparaison à faire entre les deux parce que, à la différence notable de Nasser, Mandela, lui, quand il deviendra président, ne chassera personne.
Il y avait en Égypte, à côté de ce foisonnement, un aspect qui ne pouvait pas durer indéfiniment, c'est le fait que les communautés étrangères en Égypte, qui étaient très nombreuses et importantes, les Italiens, les Grecs et quelques autres, avaient un statut d'extraterritorialité qui faisait que si, par exemple, un Italien tuait quelqu'un au Caire ou à Alexandrie, et on ne pouvait pas le juger sur place, il fallait simplement le renvoyer en Italie. Et il y avait un véritable ressentiment dans la population locale. Et puis il y avait une présence militaire anglaise que les gens supportaient très mal. Et à un moment donné, ça a explosé. Je ne vais pas revenir sur les événements de cette époque, mais il y a eu la guerre de Suez en 1956. Et au lendemain de cette guerre, il y a eu une réaction de la part du pouvoir de Nasser, du nationalisme arabe en général, qui a poussé toutes les communautés qui n'étaient pas égyptiennes d'origine à partir, dont la famille de ma mère. Et je compare effectivement à Mandela, qui lui a souffert d'un phénomène encore pire, puisque avec l'apartheid, toute la communauté noire était exclue de la vie politique du pays. Et quand il a gagné, au lieu de les pousser vers la sortie, au contraire, il leur a dit « Vous devez rester avec nous ». Il est allé très loin pour les convaincre de ne pas quitter le pays, parce qu'il a compris que s'il quittait le pays allait entrer dans une phase de tumulte très grave.
Et vous avez une admiration particulière pour Mandela. On va écouter la BO de votre roman. On vous a demandé de choisir une musique qui pouvait illustrer le mieux votre livre. Vous avez choisi Georges Moustaki et aussi Myriam Makeba, qui est justement sud-africaine. On va écouter un extrait. Myriam Makeba avec Click Song. Pourquoi ce titre, Amin Maalouf ?
Parce qu'il y a des sonorités dans la langue. Je crois que c'est la langue Xhosa en Afrique du Sud. Il y a des sonorités très spéciales qu'il est extrêmement difficile de reproduire si on n'est pas né dans le pays. Et cette chanson, on l'appelle Click Song parce qu'il y a toutes ces sonorités qu'elle
reprend. C'est incroyable. Arthur Hache, il commence à lire votre livre. Il a commencé la première page, je vous le dis. C'est incroyable, Myriam Makeba. Effectivement, ce son... Avec les arrangements, tout clique. C'est incroyable. Ça vous plaît, Myriam Makeba?
Oui, c'est une grande chanteuse magnifique, oui, bien sûr.
Bon, les libraires ont lu votre essai, Amin Maalouf, le Canada et la Belgique. Commençons par le Canada avec Jérémy Laniel, qui est fan d'Amin Maalouf. Allons-y.
Mais c'est drôle, oui, je suis fan, mais je dois vous avouer que je l'ai lu un peu de reculons parce que j'avais été déçu de Fauteuil sur la scène, le précédent livre d'Amin Maalouf. Oui, malheureusement.
J'avais adoré,
après,
moi.
Moi, après quelques chapitres, je m'étais ennuyé, puis je me disais, c'est dommage, j'avais peut-être perdu mon Maalouf que j'aimais fréquenter, et là, j'arrive dans le naufrage des civilisations. Quel grand livre! On est dans la lignée des grands essais de l'esprit de Maalouf peut nous amener sur un regard sur le monde éclairant. C'est vraiment un très grand livre.
Déborah Damblon, pour la Belgique, êtes-vous d'accord?
Ben oui, d'abord je suis fan aussi, et puis je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un très grand livre. C'est un livre universel, je dirais. Un livre qui peut réunir les publics, réunir les plus jeunes, les plus âgés. Il est nourri de tout. Et je pense que ça sera vraiment un de ces récits boussoles. Vous savez, ces récits qui nous montrent la voie, qui nous indiquent des chemins à prendre dans ce monde tellement vacillant, de ceux qui nous permettent d'avancer les yeux grands ouverts, et puis qui nous donnent quand même envie d'appartenir au même monde, et puis d'œuvrer un peu pour sa sauvegarde.
Merci Déborah. Vous racontez plein de choses dans ce livre, Amin Maalouf, dans les années 60, à Beyrouth aussi, avec cette ville qui commence à dominer comme capitale intellectuelle de l'Orient. En 1967, la guerre des six jours, on en parlait à la télévision dans la version télé de la librairie francophone. Et puis en Occident, les élections de Thatcher et de Reagan pour les années 80, qui donnent une tonalité conservatrice et ultra-libérale, et qui sera, d'après vous, la genèse de la grande société de consommation, avec en plus... un repli identitaire. Là aussi, ça s'explique par la venue de ces deux personnages au pouvoir.
Ça a joué un rôle. L'année charnière, c'est 1979, au cours de laquelle il y a d'un côté la révolution iranienne qui marque un durcissement des questions identitaires. Et ça va avoir des répercussions partout dans le monde. L'autre événement, c'est l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir, 3 mois après, qui va inaugurer une nouvelle manière de gouverner, qui va s'étendre d'abord vers les États-Unis avec Reagan, puis qui va se répandre partout dans le monde, et qui remet en cause le rôle social de l'État, qui combat l'idée d'un État-providence, et ça va créer des déchirements. Donc on a à la fois les déchirements identitaires et les déchirements sociaux qui commencent cette année-là. Et aujourd'hui, je pense que nous avons un monde qui a été façonné par ces deux facteurs et qui échappe un peu aux commandes. C'est pourquoi je parle un peu de naufrage dans ce livre.
Oui, c'est ça, le naufrage des civilisations. Vous notez la disparition de celle que vous nommez la boussole morale, avec ses principes d'égalité. Cette boussole morale qu'on a tendance finalement à perdre et qui désagrège le tissu social quand elle n'est pas là.
On n'arrive jamais à l'égalité, mais si on abandonne l'égalité comme boussole, on dérive. Et nous sommes dans un monde où les inégalités deviennent la règle, où on les considère comme normales, où on se vante d'avoir 8 ou 12 ou 15 personnes qui possèdent autant que la moitié de l'humanité. Et cette dérive est dangereuse.
Donc ça, c'est ce qu'a raté l'Europe pour vous, l'Europe et les États-Unis. Ils auraient dû montrer l'exemple en étant des autorités de référence, symbole justement de la diversité du monde.
Ce que les États-Unis ont raté, pour aller vite, c'est de mettre en place un véritable ordre international au moment où Ils étaient devenus la seule superpuissance, ils n'ont pas réussi à le faire, et ils ont de plus en plus perdu leur crédibilité morale. Et l'Europe n'a pas réussi à prendre la relève des États-Unis, n'a pas réussi à se constituer comme une véritable force, sur tous les plans, capable de jouer ce rôle.
Le naufrage des civilisations d'Amin Maalouf de l'Académie française est paru chez Grasset. Merci beaucoup Amin. C'est un livre essentiel, hein, vous, je l'ai dit à la télé aussi, mais vous êtes un grand conteur. Ce livre est une référence. Il doit être conseillé, comme je le disais aussi, à tous les enseignants, car vraiment, c'est un excellent livre d'histoire ludique et passionnant. Merci beaucoup Amin Maalouf. Merci à vous. La chronique des libraires à présent. Avec les coups de cœur et les coups de gueule. On commence par un coup de gueule, Dominique Bressou, en Suisse.
Oui, alors moi j'ai un coup de gueule sur le peu d'intérêt manifesté par le public en général pour les recueils de nouvelles. Ce qui me semble quand même un peu paradoxal, parce que souvent les gens ont envie de lire, mais pas un pavé. Et en fait, si les clients n'en achètent pas, bien entendu, les éditeurs en éditent de moins en moins. Alors heureusement que Maupassant et Edgar Allan Poe ont vécu à une autre époque, mais c'est quand même regrettable. Alors il y a deux recueils de nouvelles qui sont très bons, par exemple, chez Bernard Campiche, mais il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus que ça.
Et il y en a un qui vient d'avoir le prix Goncourt de la nouvelle, hein, pour le coup. C'est celui de Caroline Lamarche. Vous l'avez lu ?
Ah voilà.
Ben oui, il est venu dans la librairie francophone, on l'avait reçu.
Ah ben oui.
Et vous pouvez retrouver d'ailleurs son intervention dans la librairie francophone en podcast. Nous sommes à la lisière, c'est toujours d'ailleurs chez Gallimard. Un coup de cœur en France, cap sur la Martinique, Anne-Rosine Vosa, dans le rayon des livres pour la jeunesse.
Ah oui, alors j'ai lu un très joli livre, très drôle, sur la famille, sur l'amitié transgénérationnelle. Il s'appelle « Tranquille comme Baptiste ». Il a été édité aux éditions Syros. Et il raconte l'histoire de Baptiste, un jeune élève assez timide, mais bon, et qui partage avec Barnabé, son vieux voisin, une amitié profonde et surtout une passion. Ils sont lexicophiles. Alors lexicophiles, ce sont des collectionneurs de mots rares. Et leur tranquillité va basculer avec l'arrivée de la petite fille de Barnabé, qui n'a pas du tout la même passion et qui justement parle beaucoup et jure comme un charretier. Et donc tout l'intérêt sera de s'entendre et de vivre cette amitié tous les deux, et c'est très très joli, très belle histoire.
Tranquille comme Baptiste, une histoire profonde, donc de Yael Hassan aux éditions Syros Jeunesse. Merci beaucoup Anne. Jérémy Lagnel au Canada, je suis sûr que vous avez un petit coup de gueule cette semaine pour compenser vos compliments avec Amin Maalouf.
Vous savez, on s'est vu il y a à peine quelques semaines, on était à Genève ensemble, Emmanuel,
oui,
tant que libraire, j'ai erré sur différents stands à Genève et j'ai vu des livres là, des livres qui ont l'air si intéressants, si brillants, des éditions genevoises qui sont absolument introuvable au Québec. Je pense à Élis Hélas, les éditions de la Baconnière, des livres majestueux que je ramène dans mes bagages au risque de me faire prendre par un surpoids. Et pourtant, j'arrive au Québec en librairie, impossible de les trouver.
Eh oui.
Est-ce qu'on peut avoir une meilleure circulation des livres, s'il vous plaît?
On le dit depuis des années dans cette émission, la circulation des livres, c'est très important. Vous avez raison. Merci Jérémy. On termine avec un coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon.
Mais oui, Emmanuel, vous connaissez le prix Rossel.
Exactement.
Notre célèbre prix Rossel.
L'équivalent du prix Goncourt en France, oui.
Voilà, et ben vous savez que il a un petit frère, une petite sœur, on ne sait pas. Enfin, il y a le prix Rossel de la bande dessinée maintenant,
ah,
c'est
pas mal.
Nouveau.
Génial.
Voilà, on vient de le remettre. En plus, ça couronne plusieurs catégories. Et moi, celui que j'ai envie de partager avec vous, c'est le prix de la meilleure série. Il a été attribué à Max de Radiguez pour ses délicieux jumeaux Stig et Tilde, la meilleure série. Il va y en avoir trois, il a dit. C'est passionnant, c'est délicieux, c'est classique, mais c'est moderne. C'est pour le jeune public, mais Emmanuel, s'il vous plaît.
Oui.
Lisez-le, suivez mes conseils, vous allez adorer retomber en enfance.
Stig et Tilde, volume 1, aux éditions Sarbacane. Merci Déborah. Dans un instant, on part à Cannes avec Gérard Lefort et on parle du burn-out. On est tous proches du burn-out aujourd'hui, avec une petite BD très... Non, pas vous Gérard, non ça va.
Pas du tout.
Non, je sais pas pourquoi je dis ça.
Non, mais moi je fais un burn-out toutes les 20 minutes.
Oui, c'est ça. J'invente des histoires comme ça.
Voilà.
Une petite BD donc très instructive dans quelques instants. Avant cela, voici le chanteur canadien Hubert Lenoir dans la librairie francophone. Merci à vous de nous écouter partout à travers le monde.
Still I'm a
C'était le Québécois Hubert Lenoir avec Fille de Personne.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Avant de partir dans les coulisses du Festival de Cannes, un coup de projecteur pour une petite BD d'une collection que nous aimons bien dans cette émission, la petite BDthèque des Savoirs, publie le Burnout. Bonjour Zoé Touron.
Bonjour.
Bonjour Daniel Linhart.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dans la BD, vous laissez entendre que le Burnout est la conséquence d'un accroissement permanent du travail sans la reconnaissance qui va avec.
Oui, absolument. Il y a quelque chose qui est contradictoire dans la modernisation managériale, c'est que d'un côté, il y a une focalisation sur la mobilisation de la personne, il y a une sorte de narcissisation même de la relation de chacun à son travail, on lui demande de sortir de sa zone de confort, de faire preuve d'autonomie, et on l'évalue sur des qualités, en fait, qui sont très personnelles. Mais de l'autre côté, il y a, comme vous le signalez, une intensification du travail, et il y a également une continuité de la logique taylorienne, c'est-à-dire que on continue malgré tout du côté managérial d'imposer aux salariés des procédures, des protocoles, des process, des bonnes pratiques, etc., qui leur retirent l'autonomie. Et tout cela dans une sorte de changement permanent où on restructure les services, les départements, recompose les métiers, on change les logiciels, on crée une mobilité systématique qui fait perdre tous les repères.
Donc on n'est pas reconnu, c'est ça ?
On n'est pas reconnu
parce qu'on fait mal son travail, du coup.
C'est-à-dire qu'on dit, on va vous reconnaître, mais montrez-nous qui vous êtes vraiment, montrez-nous, et on empêche aux gens de montrer qui ils sont, parce qu'ils sont tenus par un carcan procédural.
Est-ce que ça veut dire que quand on est sous l'eau, comme on dit, avec plein de boulot, mais une certaine reconnaissance, c'est juste un surmenage et on ne peut pas parler de burn-out ?
Tout à fait. Il faut faire la différence entre ce qui est une pénibilité liée au travail, qui peut avoir des horaires atypiques, qui peut exiger des efforts, etc. Et les gens disent, c'est pas grave. À partir du moment où on garde le sens du travail, on a l'impression de faire quelque chose d'utile, on se repose. Les gens qui ont du burn-out, ils peuvent ensuite être mis en repos au bout d'un an, deux ans, quand ils retournent à l'entreprise, les symptômes du malaise, du mal-être reviennent, peuvent avoir des vertiges, des paralysies.
Ils ont du mal à revenir, oui. Zoé dessine très bien d'ailleurs ça, avec ses personnages qui n'arrivent pas à revenir. Ça vous est arrivé ça, Zoé, un burn-out, un surmenage ?
Au moment où on m'a proposé de faire ce livre, j'étais en plein submergée par plein de travail un peu de toutes parts et j'arrivais pas trop à boucler ce qui me tombait sous la main.
Ça
et,
tombait bien, quoi.
Et ça tombait pile et je me dis, ouais. Après ça, je fais plus rien.
Ça a été votre psychanalyse, en fait.
C'est ça,
au passage. Il y a le psychologue américain Freudenberger qui définit le burn-out ainsi, un état de fatigue ou de frustration résultant du dévouement à une cause, à un mode de vie ou à une relation qui n'a pas donné les bénéfices escomptés.
Oui,
mais... C'est ça en fait, on attend des choses, on se donne corps et âme, et quand ça vient pas, c'est
bien
là qu'on
sûr.
Craque.
C'est une remise en cause de soi-même, de l'investissement qu'on a pu mettre dans quelque chose à qui on voulait donner, à quoi pardon, on voulait donner du sens, et puis d'un seul coup on n'y arrive pas, ou on est contraint de faire mal, de bâcler son travail, et on a une sorte de manque de confiance à soi-même parce qu'on n'a plus le recul de son expérience et de sa professionnalité.
Mais Daniel, vous qui êtes sociologue, spécialisé dans l'évolution du travail, comment sortons d'une situation de burn-out? Je pense à ceux qui nous écoutent en ce moment, qui sont dedans ou qui le frôlent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous avez une solution?
Oui, il faut partir. Parce que c'est vraiment très grave.
Oui, ah oui, mais là, oui. C'est radical, Daniel.
Non, c'est parce que ce que je veux vous dire, justement, c'est qu'il y a une remise en cause de soi-même, de l'image de soi, de la valeur qu'on peut avoir. Et c'est extrêmement dangereux. Marie Peset, qui est la spécialiste de la souffrance au travail, qui dit, dans ces cas-là, il faut partir en courant. C'est une question de survie.
On va laisser la place à nos libraires avec Dominique Bressou qui est en Suisse. Vous voulez réagir, Dominique ?
Oui, alors des personnes parties en burn-out, malheureusement, en fait, on en connaît tous. Et c'est encore une énigme pour beaucoup. C'est comment en est-il ou elle arrivée là ? Moi, je trouvais qu'un des grands intérêts de cette BD, c'est que vous arrivez à éviter le manichéisme méchant patron, gentils ouvriers, en montrant que c'est autant la manipulation patronale que l'absence de solidarité et le narcissisme des employés qui favorisent des conditions de travail ahurissantes. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre remarquable. Et mon seul regret, ben là, je vous répète, c'est qu'à part sauver sa peau, il ne semble pas qu'il y ait d'autres solutions, en fait, au burn-out.
Alors, je vais compenser un petit peu, parce que moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec Dominique. Moi, j'ai trouvé très engagée votre bande dessinée, et c'est ce qui m'a dérangé. Je ne l'ai pas du tout trouvée neutre, comme elle a l'air de penser. Et c'est très militant, je ne m'attendais pas à ça, parce que vous dénoncez frontalement les méthodes du patronat, par exemple. Bon, en soi, vous avez raison, hein, parce que ces méthodes divisent les employés, les met en concurrence, retournent des situations à leurs avantages. Mais vous êtes allé très fort dans le registre du militant.
Non, bah, le militantisme, c'est pas du militantisme, c'est une analyse sociologique, si vous voulez.
Ouais.
Il y a une obligation, du point de vue des managers, d'asseoir la domination sur les salariés pour les obliger à travailler selon des critères de qualité et de rentabilité que eux, en tant que direction, ils veulent imposer. Et c'est prévu par la loi, ça s'appelle la subordination. Donc, l'esprit managérial vise à rendre concrète la subordination des salariés.
Dominer, bah, c'est ça ?
Mais oui, mais c'est ça la réalité salariale,
et en plus,
c'est la subordination.
Et en plus, jouer avec le narcissisme de certains employés. Plus on est narcissique, et plus les patrons aiment ça, parce que ça leur permet de les exploiter le plus possible,
bien sûr.
Avec une récompense au bout qui est lamentable.
Mais qui est lamentable parce que c'est le système qui est lamentable. Ouais.
Oui,
si vous voulez.
Oui.
Et c'est pas simplement un système qui est délétère vis-à-vis des salariés, il l'est également vis-à-vis de l'avenir de l'humanité sur notre planète. Donc vous dites militant, mais je crois que c'est pas un terme qui est approprié. C'est une analyse sociologique qui montre que le management, pour arriver à ses fins, doit passer par une domination, une autorité sur le monde des salariés.
Il y a beaucoup de mots anglais d'ailleurs. Un personnage que vous dessinez sans plein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots anglais. Comment ça se fait ça? Quand on parle de burn-out et de conditions de travail, ce sont les anglophones qui se sont penchés sur le sujet avant les francophones?
C'est-à-dire qu'il y a des modes. Il y a des modes qui nous viennent des grands cabinets de consultants internationaux. Et ils sont beaucoup situés aux États-Unis. Donc nous répétons ces mots anglais que nous comprenons imparfaitement, mais qui visent à asseoir une sorte de mode de mobilisation des salariés.
Gérard Lefort.
Et dans une émission francophone et francophile, comment vous traduiriez burn-out ?
Moi, je l'appelle effondrement personnel.
Ah, c'est bien.
Et
c'est
non
bien,
pas
Gérard.
Épuisement.
Ouais. Quelle question géniale, vous allez prendre ma place. Formidable.
Je suis ému moi-même à la poser.
Bon, merci beaucoup Daniel Inhart et Zoé Touron. Le Burnout en BD paru aux éditions du Lombard dans un petit format, un petit prix en plus. La BD Tech des Savoirs, c'est vraiment génial. Merci à vous. On va passer au Festival de Cannes. Il n'y a pas de Burnout là-bas au Festival de Cannes.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
sur cette ambiance incroyable du Festival de Cannes dans des séances photo, les photocalls, mais on va préférer séances photo. On reçoit Gérard Lefort pour son livre La foire aux vanités, paru chez Hors Collection. Vous avez fréquenté le Festival de Cannes pendant plus de 30 ans, Gérard. Une foire aux vanités qui devient aussi un bûcher, dites-vous.
Oui, j'ai emprunté le titre à un célèbre roman anglo-saxon de Sir Craig qui s'appelait Vanity Fair, la foire aux vanités. J'ai eu cette audace parce que j'ai trouvé que ça collait. Et le mot qui colle encore plus, c'est pandémonium. Pandémonium, c'est un néologisme, hein, et ça veut dire bruit, fureur et cri. Alors si vous voulez du bruit, de la fureur et le cri, on l'a entendu en introduction, ouais. Vous êtes servi à Cannes. Et puis, ce qui est sidérant, littéralement sidérant, c'est que ce paradis est un enfer et cet enfer est un paradis.
Alors on y apprend plein de choses dans ce livre, Gérard Lefort. Que beaucoup de personnalités se font refouler, par exemple, lors des soirées. Alors c'est incroyable, parce que soit parce qu'elles ne sont pas sur la liste, soit aussi parce qu'elles sont mal habillées, oui. À l'image d'un certain Jean-Paul Gaultier, oui. Qui un jour s'est fait refouler au Festival de
Alors
Cannes.
Alors qu'il était d'une rare élégance, mais en short.
Et très connu déjà.
Voilà, donc refoulé une première fois, donc il va se changer, il revient toujours aussi élégant, mais en jupe. Donc voilà, deux fois, comme on dit les jeunes, il s'est pris un râteau.
Et vous vous servez-vous de George Clooney? Ah oui. Un jour pour entrer dans une soirée sélecte.
Oui, je suis pas peu fier de ça. C'était justement organisé par un magazine américain qui s'appelle Vanity Fair, lui aussi, et qui a la particularité d'interdire son entrée aux journalistes. Donc, mal barré. Bon, ma curiosité prenant le dessus, j'y vais au flanc, et je chope Frédéric Mitterrand, qui lui était une célébrité beaucoup plus importante que moi, il n'y a pas de mal. Ouais. Et je suis avec mon fiancé. Et mon fiancé, c'est Frédéric Mitterrand, qui marche dans la combine immédiatement, mais pas au point qu'on franchit donc la barrière qui sépare le Vanity Fair.
Non, parce qu'il dit, je suis Mitterrand, il arrive.
I am Mitterrand.
Et tout doucement, il dit, Frédéric.
Frédéric.
Et l'ouvreuse, la fille qui est à l'accueil, lui dit,
oui,
mais Frédéric... Mitterrand n'est pas mort.
Et Frédéric a répondu a little bit. Oui. Voilà, qui n'est pas en retard d'un humour, Frédéric Mitterrand. Mais lui, il ne rentre pas et moi, je rentre parce que au bluff, je vois un monsieur, très beau monsieur. Je fais hi dear. Et le mec se retourne et c'est George Clooney qui dit oui, c'est un ami, laissez-le passer.
Et vous rentrez d'une soirée un jour, vous êtes en bus, c'est incroyable. Vous vivez des moments, ça donne pas envie, hein, franchement. Par moments, c'est drôle, mais on se dit vous rentrez à 6h du matin, complètement errant. Complètement sous, et vous arrivez dans le bus, vous êtes en périphérie de Cannes, il faut aller sur la Croisette, vous chopez un car qui vous dit ok, je vous amène, et vous arrivez, vous dites vous nous ramenez d'abord nous, hein, pas les autres, parce qu'il y en a d'autres, et au fond du bus, il y a quelqu'un qui dit si vous pouviez passer par le Majestic avant.
Si vous pouviez, une petite voix mourante, si vous pouviez faire un crochet par le Majestic, monsieur, s'il vous plaît, et c'était Catherine Deneuve. On a fait le crochet.
Oui, parce que vous logez dans des endroits improbables. Quand on ne loge pas dans un palace à Cannes, quand on est journaliste ou quand on arrive en bande, c'est n'importe quoi.
Oui, c'est le grand n'importe quoi, c'est des gourbis, on peut le dire, il y a des trous dans le plafond et dans le plancher. Une fois, on a eu un appartement qui n'était pas loin de la ligne de TGV, donc toutes les 45 minutes, tout vibrait sur la table, un début de tremblement de terre. Oui, on a des conditions de... Mais cela dit... Il faut être un Jean Foutre pour se plaindre d'être à Cannes quand on est journaliste. On voit les plus beaux films du monde, dans les plus belles salles de cinéma du monde. Donc arrêtez de chialer, les chers collègues, et néanmoins amis.
Et vous avez du flair. On va y revenir dans un instant, juste avant deux libraires qui ont lu votre livre, Gérard, la Suisse et la Belgique. On commence par qui ?
La Belgique.
La Belgique.
Bruxelles, ma belle.
Bruxelles, Déborah Damblon.
Alors bon, moi je dois quand même reconnaître qu'il y a une partie des allusions qui m'ont échappé, et puis des anecdotes dont j'ai pas tout à fait vu l'intérêt, ou parfois même qui m'ont presque mise mal à l'aise. Mais bon, Emmanuel pourra en témoigner, je ne suis pas très potin, je dois le reconnaître. Mais ce que j'ai aimé, parce qu'il y a des tas de choses que j'ai aimé aussi, c'est d'abord votre plume. Et puis les dessous de ce métier qu'on pourrait croire de rêve, et puis ben, comme vous dites, hein, il faut pas se plaindre, et vous ne le faites pas, c'est très bien. Et puis il y a aussi des anecdotes que j'aurais jamais imaginées, et puis qui m'ont amusé. Et puis qui m'ont fait sourire.
C'est vrai qu'il écrit bien, Gérard Lefort. Il énerve un peu parfois, mais il écrit bien. Dominique Bressot, pour la Suisse, qu'en pensez-vous ?
Pour moi, ce livre, c'est vraiment l'entrée par la petite porte d'un lieu interdit au commun des mortels. Et le début m'en a paru très prometteur. Comment s'organisent ceux qui y sont pour travailler et qui n'iront pas dans les palaces, mais devront faire croire qu'ils sont dans le secret des dieux ? Mais les anecdotes qui désacralisent, pour autant qu'ils soient sacrés d'ailleurs, les monstres présents au festival ne m'ont pas vraiment passionné. Et surtout, le petit arrière-goût de « c'était mieux avant » m'a carrément agacé.
C'était mieux avant, Gérard, ou pas ?
Oui. Voilà, c'est tout ce que je peux répondre. Ouais, c'était mieux avant parce que c'était moins cadré, moins organisé. Il y avait des fissures dans l'organisation.
Oui, c'est vrai.
Par lesquelles.
Ne serait-ce qu'avec les accréditations, vous racontez
ça. Et puis les voyous.
On les recopiait, on se les passait. Maintenant, c'est impossible.
On recopiait couleur. Et donc, moi, j'en ai fait profiter beaucoup d'amis. Bref, il y avait des brèches, il y avait des fêlures par lesquelles on pouvait s'infiltrer. J'ai l'impression que tout ça a été bien bétonné.
Et vous avez du flair, Gérard. Malgré vos soirées débridées et sulfureuses, vous racontez, qu'il y a de l'alcool, du sexe, de la cocaïne. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Vous arrivez quand même à sentir, quoi, vous faites pas la grimace, c'est du grand n'importe quoi, arrivez à sentir qu'Emir Kusturica risque d'avoir la Palme d'Or. Et vous êtes le seul dans ce cas-là. À un moment, vous dites à vos collègues de Libération, c'est le journal pour lequel vous travaillez, il va falloir s'intéresser à lui. Et il a la Palme d'Or. Alors, vous allez devenir la star de la presse étrangère. On va venir vous interviewer pour ça.
Mais surtout à l'époque, je vous parle d'un temps, le pays s'appelle la Yougoslavie. Et donc, la télévision yougoslave me demande un interview. Bon, très bien, avec plaisir. C'est pour le journal télévisé de la chaîne nationale yougoslave. Et c'est très important. Tout le monde regarde ça et tout. Et donc, j'arrive au rendez-vous. Je réalise déjà qu'il va y avoir un petit problème parce que nos amis yougoslaves parlent vaguement le français. Donc, ça donne, toi, journaliste grand, embrasse-moi. Bon, alors, moi, je l'embrasse. Bon. Et puis, donc, on attend. Et ça va être en direct. D'un seul coup, il y a 300 millions de watts qui s'allument des projecteurs. Et nous sommes en direct, duplex. Comme on dit, avec le présentateur du journal télévisé de l'unique chaîne yougoslave et qui commence à parler en serbe.
Donc, sans traducteur.
J'ai pas pris serbe ni en première, ni en deuxième.
Vous avez toujours des problèmes de traducteur.
Ni en troisième langue. Donc, il pose des questions assez longues. Et donc, j'y réponds. Et il me repose des questions. Et ça dure assez longtemps. Je vois que c'est un sujet très important. Il a eu la Palme d'Or. Emir Kusturica. L'émission s'arrête. Au revoir. On s'embrasse. Le type du début me réembrasse de nouveau, des origines russes, probablement, sur la bouche. Et puis voilà. Et puis, quelques années plus tard.
Parce que vous répondez n'importe quoi.
Non, pas n'importe
à côté, quoi.
Imaginez bien.
Oui,
enfin,
en tout cas, vous ne répondez pas aux questions.
Pas vraiment. Et des années plus tard, Emir Kusturica, qui lui pratique le français, me dit qu'il n'a jamais autant ri de sa vie en voyant l'émission, puisque la question était à peu près « Mais quand est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence d'Emir Kusturica ?» Et je répondais « Vous avez raison, les acteurs sont formidables. » Mais ça devait être bien, je pense. Ils ont dû beaucoup rire là-bas.
Voici le livre décalé, mais parfaitement dans l'actualité de ce Festival de Cannes qui a ouvert ses portes cette semaine. « La foire aux vanités » de Gérard Lefort. Souvenir du Festival de Cannes, il y a plein de choses. Merci beaucoup Gérard.
Merci à vous.
Merci à Amine Malouf qui a bien ri pendant l'entretien.
Oui, absolument.
Vous êtes déjà allé au Festival de Cannes ?
Non, jamais.
Jamais.
Vénard.
Mais non, mais dis ça, vénard. Mais... Merci Arthur H, à très bientôt. Merci. Merci à vous.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici un artiste du Niger nommé Kella Souf. Le Nigérien Kel Assouf avec Franza, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation Cyril Pascal avec les grands Ludovic Asselot et Fabrice Desmaz. Thierry Dupin est à la prog musicale. À la rédaction Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Teucher en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Sylvie Julien avec Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre grand voyage francophone avec toujours des surprises. Bonne semaine et bon week-end à tous.